BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
Bienvenue à tous, jusqu'à 18h, tous les moments clés de cette séance en Europe, aux États-Unis, les valeurs à ne pas rater. Soitec, après sa publication, progresse nettement, recule nettement. Trigano, en revanche, après sa publication, progresse nettement. Voilà, Jean qui rit, Trigano, Jean qui pleure, Soitec dans les équipements. Bon, on va essayer de comprendre pourquoi Soitec recule très très nettement aujourd'hui. Il y a trop de stocks encore chez Soitec. Nos analystes sont sur le pont et nous répondrons tout au long de l'après-midi. On a Casino aussi qui a repris sa cotation et c'est douloureux. Une très très forte baisse, un plongeon important et spectaculaire aujourd'hui pour Casino. Mais d'abord un coup d'œil à la séance américaine. Ça fait une heure que Wall Street a ouvert. Notre Dream Team USA Today est en place. John Plassard, bonjour John.
Depuis bonjour Guillaume.
Au bureau de Mirabeau, John, Aude Kersulec aussi nous accompagne depuis la Tour Euronext. Bonjour Aude, ravi aussi de vous retrouver.
Bonjour Guillaume.
Comment Wall Street évolue-t-il aujourd'hui Aude?
On a l'air depuis une heure, depuis l'ouverture de Wall Street. Après trois séances de baisse hier, on a quand même eu une hausse et puis un record pour le S&P 500 en clôture. Et là, du coup, on redémarre vraiment très doucement autour de l'équilibre pour les trois indices. On est légèrement en hausse pour le S&P 500 à 5251 points, plus 0,05%. Le Dow Jones, lui, est en baisse de 0,05%. Et le Nasdaq perd aussi 0,05% à 16380. 90 points, tout ça avant un long week-end de 3 jours, le week-end pascal pour les marchés américains.
Effectivement. Alors on a un chiffre intéressant, la croissance américaine, dernière estimation pour le quatrième trimestre 2023 et John, aux surprises, on a un nouveau relèvement. Relèvement de l'estimation de croissance américaine au quatrième trimestre. Cette croissance, on la savait solide, elle est encore plus solide qu'on le pensait jusqu'ici.
Ouais, absolument incroyable. Guillaume, on passe de la dernière estimation de 3,2% pour le dernier trimestre 2023 à 3,4%. Vous avez les dépenses de consommation, bien évidemment, qui ont été révisées à la hausse. 3,3% contre 3%, tirées notamment par les services. Les services, on sait, c'est les hôtels, c'est les restaurants, c'est les avions. Eh bien, elle a été remontée de 2,8% à 3,4%, alors qu'on a les biens qui progressent un peu plus que prévu. Et donc, on est dans une situation où, effectivement, on ne voit pas de baisse de la croissance. On en parle souvent ensemble, Guillaume. Il faut rappeler ici que l'année passée, en moyenne, eh bien, vous avez une croissance de 2,5% de la croissance américaine et qu'en 2022, on était à 1,9%. Et cette année, je vous rappelle qu'on attend un peu plus de 2%. Donc, toujours pas de récession en vue et... On en parlait aussi ensemble, Guillaume, le fameux « no landing », c'est-à-dire que la croissance américaine ne veut pas plier, tout comme l'inflation, on aura les chiffres demain. Une autre statistique qui a été publiée, qui est très intéressante aussi aujourd'hui, qui va dans le sens de la croissance, c'est la confiance du consommateur selon l'Université du Michigan. Eh bien, tenez-vous bien, elle est supérieure à ce qu'on attendait, 79,4 contre 76,5 le mois précédent en janvier. Et on est à un niveau le plus haut depuis juillet 2021. Donc, au niveau économique, aux États-Unis, tout va bien.
Effectivement, c'est impressionnant. Et on rappelle qu'au premier trimestre, du coup, Wall Street s'envole une nouvelle hausse du S&P 500 depuis le début du premier trimestre de 10%, plus 10% depuis le début d'année, le S&P 500. Dans ce contexte où la croissance ne plie pas, Aude, que fera la Réserve fédérale américaine? On a des petits indices, là, des membres de la Fed qui s'expriment encore cette semaine.
Oui, tout dépendra aussi du chiffre de demain, hein, du PCE, mais c'est vrai qu'on a Christopher Waller qui est un gouverneur de la Fed qui nous a redit qu'il n'était pas pressé de baisser les taux, le fameux no rush to cut. Alors lui, il est considéré comme faucon, donc c'est pas très étonnant, mais il a dit quand même, le risque d'attendre un peu plus longtemps est nettement inférieur à celui d'agir trop tôt. Qu'est-ce que vous en pensez, John, de cette déclaration?
Écoutez, c'est une déclaration qui est très importante. Alors, on parle souvent en haut de tous les membres de la Fed qui parlent, mais tenez-vous bien, Christopher Waller est une des personnes qui est les plus écoutées au sein de la Fed. Et donc, son message est important. Il dit effectivement qu'il n'y a pas d'urgence à baisser les taux. Il est assez frustré, c'est lui-même qui le dit, par les statistiques économiques qu'on a eues dernièrement, avec notamment l'inflation qui est beaucoup trop haute. Il appelle ça une inflation décevante parce qu'elle est trop haute. Et aussi, il dit que la solidité de l'économie, qu'on vient d'en parler avec la croissance économique et la confiance du consommateur, et aussi la vigueur de l'embauche, eh bien, sont des raisons pour lesquelles la Fed peut attendre. Qu'est-ce que ça veut dire en lisant entre les lignes, Aude ? Eh bien, au lieu de 3 baisses de taux cette année, potentiellement, on pourrait en avoir 2.
Oui, peut-être un peu moins de baisse de taux que ce qu'espère le marché. C'est l'un des risques pour la suite. On aura 1000 fois l'occasion d'y revenir. En tout cas, Wall Street pour cette dernière séance de la semaine. Demain, pas de séance. Jour férié aux États-Unis. Les marchés européens aussi seront pour la plupart fermés. Bah, pour cette dernière séance de la semaine, Wall Street fait pas grand-chose. On a les 3 indices à peu près stables cet après-midi. Et pendant ce temps, la campagne américaine bat son plein. Campagne présidentielle. On est à 224 jours du scrutin désormais. Alors là, on a une sacrée surprise quand même. Donald Trump doit renflouer ses comptes de campagne. Et pour les renflouer, eh bien, il s'est mis à vendre, John, à vendre des bibles.
Oui, tout à fait. Ça paraît assez incroyable parce que, en fait, cette annonce sort en même temps que l'annonce du fait que sa fortune personnelle, tenez-vous bien, serait de 7,8 milliards et il viendrait, avec la mise en bourse de son réseau social, eh bien, de dépasser George Soros, qui a 7,2 milliards. Donc, on se pose des questions, évidemment, sur le fait que, évidemment, il lui manque des liquidités et il a décidé, effectivement, de vendre des bibles, Bible God Bless the USA, et ces bibles seront vendues pour $60 l'unité. Alors il faut rappeler une chose, c'est que cette initiative de Donald Trump fait suite à 4 inculpations pénales, une série et des séries de poursuites civiles. On se souvient que la semaine passée, il a réussi à faire baisser un recouvrement. Il a suspendu pour $175 millions. Et il faut aussi rappeler que Donald Trump a déjà versé une caution de $92 millions dans le cadre des poursuites pour diffamation qui avaient été engagées contre lui il n'y a pas très longtemps par une écrivaine. Donc on est dans une situation où même si la fortune de Donald Trump s'envole, eh bien il a besoin de liquidités et peut-être c'est la vente de ses bibles qui pourrait l'aider un peu en tout cas.
En l'occurrence, Make America Pray Again. Voilà, voilà où on en est. Et Donald Trump qui se met à vendre des bibles. Alors ça, on l'avait pas vu, effectivement. On est à 224 jours du scrutin. Il y aura sans doute encore d'autres surprises à suivre. Cette campagne, on la suit au quotidien grâce à vous. John, Wall Street est mitigé. On regarde des indicateurs, les évolutions aussi de l'économie, les transformations technologiques. Et Aude, on a un nouveau rapport sur les livraisons mondiales de smartphones.
Oui, le marché des smartphones va rebondir de 3% cette année. C'est un rapport de Counterpart Research qui le dit. Alors là, pour le moment, l'action Apple est à la baisse. Hein. Aujourd'hui, on a un recul de la tech, d'ailleurs, moins 0,8% pour la marque à la pomme. Mais est-ce que c'est bon pour le secteur technologique, John ?
Oui, c'est très bon. Et puis, on se souvenait que ces dernières années, notamment l'année passée, eh bien, les livraisons mondiales de smartphones avaient baissé. Là, on attend plus 3%. C'est assez intéressant. Et surtout, un terme qui va vous plaire, Aude, c'est l'intelligence artificielle. Tenez-vous bien, le cabinet d'études qui a publié cette étude sur les prévisions cette année note que l'intégration de l'intelligence artificielle générative pousse les consommateurs à se tourner vers des appareils haut de gamme. Donc théoriquement, ça devrait être très positif pour Apple ou Huawei en Chine notamment. Donc aujourd'hui, le titre ne bénéficie pas de cette nouvelle qui, si elle devait être vraie, est très positive pour Apple.
Effectivement. Et du côté des autres valeurs à ne pas rater aujourd'hui, il y a Home Depot. Le titre recule aujourd'hui, Home Depot, d'1,4%. Home Depot qui rachète un fournisseur de construction, John.
Oui, pourquoi il recule ? Parce qu'il vient d'acheter, vous l'avez dit, SRS Distribution, qui est un leader dans les matériaux de construction, mais il a payé fort, le prix fort, 18,25 milliards de dollars. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que vous savez, Home Depot, c'est une chaîne de magasins de bricolage aux États-Unis qui se focalisait surtout sur les clients qui ne sont pas professionnels. Et bien là, en achetant SRR Distribution, il commence à se focaliser aussi sur les clients professionnels et potentiellement, c'est un relais de croissance parce que les ventes de Home Depot se sont affaiblies après la crise du Covid.
John Plassard du USA Today depuis les bureaux de Mirabeau. Merci beaucoup, John. Bon week-end puisque Wall Street sera fermé demain. Puis bonnes vacances aussi. On se retrouvera dans 2 semaines. Des vacances bien méritées. Salut, John. Merci beaucoup. USA Today chaque après-midi. Aude nous accompagne toujours également depuis la tour Euronext. Alors que, pas de jaloux, le CAC 40, lui aussi, hésite aujourd'hui, pas de véritable tendance, même si on a touché quand même un nouveau record tout à l'heure, à plus de 8250 points, ouais, à chaque jour son plus haut historique sur le CAC. Bon, là, on a un petit peu calmé le jeu depuis ce record de tout à l'heure, on ne gagne plus que 0,1% à la Bourse de Paris, parce qu'à Wall Street, la tendance est mitigée. Si vous vous demandez quel potentiel technique attend les marchés, on répondra à cette question tout à l'heure avec le portefeuille trading BFM Bourse. Ce sera à partir de 15h54. Alexandre Tixier, l'analyste du portefeuille trading BFM Bourse, nous dira comment il voit la suite en termes de potentiel technique. Rendez-vous dans quelques minutes et vous pouvez bien sûr vous abonner à ce portefeuille en flashant, en scannant le QR code qui va apparaître sur vos écrans tout au long de l'après-midi. Pour l'heure, il est 15h40. Voici la Bourse Cash. Frédéric Rosier nous rejoint. Bonjour Frédéric.
Bonjour Guillaume.
Co-responsable de la gestion de portefeuille de Mirabeau. Vous avez choisi, Frédéric, aujourd'hui de battre en brèche un poncif des marchés. Vous êtes sûr ?
Ouais, je suis sûr.
Vous venez dire aujourd'hui aux investisseurs de changer leur regard sur l'or. L'or, relique barbare ? C'est plus si vrai que ça. Voilà votre message aux investisseurs. Vous l'assumez ?
J'assume.
Le CAC bat des records. L'or bat des records. Encore ce matin, Frédéric. Et vous venez dire à ceux qui nous suivent et nous regardent aujourd'hui, l'or n'est plus ce que vous croyez. L'or est en train lui aussi de changer. Le monde change. Même l'or est en train de changer. Ce n'est plus la relique barbare dont tout le monde vous a parlé depuis des décennies et plus encore. Pourquoi l'or n'est-il plus, autant qu'avant, une relique barbare ?
Alors, il y a plein de raisons à ce phénomène. Alors, on est à plus de 2200 au moment où on se parle. Donc, on bat record sur l'or. C'est vrai qu'on est passé par des étapes... Depuis maintenant quasiment un siècle, beaucoup de bouleversements autour de l'or pivot, les talons or, 44, 71, 76. Bon, on ne va pas refaire l'histoire. Et on s'aperçoit qu'on rentre dans un monde différent, une sorte de bipolarité finalement entre les États-Unis, le monde occidental, le monde en croissance, en développement, et la vague de dédollarisation du monde qu'on est en train de connaître. On a vu ces derniers temps des banques centrales, bon nombre de banques centrales se ruer vers l'or. Pourquoi l'or ? Parce que l'or est une monnaie. L'or est une monnaie comme le dollar, c'est une monnaie de réserve. Alors, bon nombre de banques centrales ont une volonté de quelque part sortir de ce diktat du dollar.
Diversifier
leur réserve. Ce qu'on appelle du roll, hein, c'est-à-dire que quand vous avez des bons du trésor américain, au lieu de réinvestir de nominal plus intérêt, bah vous diversifiez. Et ce qui se passe notamment dans des pays comme la Chine, c'est d'aller vers l'or comme monnaie de substitution. Donc il y a une demande très forte de la part des banques centrales. Il y a aussi un intérêt qui est assez important, c'est que vous savez, on a connu une vague de hausse de taux d'intérêt très très fort ces derniers temps, depuis 2 ans. Et il y avait une forme de manque à gagner, relique barbare, parce que c'est vrai, ce que disaient aussi certains économistes à l'époque, c'est que l'or ne produit rien, ne génère aucun intérêt finalement.
Barbare.
Et lorsque les intérêts montent, et notamment aux États-Unis, finalement, l'actif de dernier ressort, c'était le bon du trésor américain, celui qui vous apportait le plus de garanties.
Plus que l'or.
Exactement. Mais c'est très bien, on va le faire en 2 mots d'ailleurs. Et donc, on avait cette perte d'opportunité, de perte d'intérêt d'aller sur l'or plutôt qu'aller sur le bon du trésor. Mmh. Vous avez évoqué cette baisse de taux d'intérêt qui, certes, est en train de se minorer un petit peu avec les derniers chiffres économiques, mais clairement, si on est dans une vague de baisse des taux d'intérêt, l'attractivité de l'or va augmenter. Pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment de ne pas perdre des intérêts en relatif par rapport au bon du trésor. Donc, il y a un phénomène aussi mécanique. Après, il y a d'autres... facteurs qui sont, à mon avis...
Il y a peut-être un momentum qui est en train de se mettre en place sur l'or aussi. Plus l'or monte, et moins il est barbare, moins il est relique barbare.
Exactement. Et on a eu une concurrence, qu'on a toujours une concurrence aussi, mais ce n'est pas au niveau des banques centrales pour le coup, mais les crypto-monnaies, vous aviez une émission juste avant nous, sur les crypto-monnaies étaient perçues aussi comme une façon de sortir du monde monétaire tel qu'on le connaît et de cette... exagération de création de masse monétaire. L'or, et bien sûr, on en découvre tous les jours, mais de moins en moins, c'est de plus en plus complexe à aller chercher, aussi pour des problèmes d'environnement. Ouais. Mm-hmm. Et donc l'or fait aussi...
Se raréfie en fait.
Se raréfie.
Par rapport à la demande, l'offre est amenée à se raréfier.
Tout à fait. Et donc on avait...
Comme le Bitcoin.
On avait la concurrence, tout à fait. C'est pour ça qu'on appelle le minage d'ailleurs, hein. C'est lié. On avait une concurrence finalement des crypto-monnaies à un moment donné entre l'or et les crypto-monnaies pour se diversifier du risque monétaire. C'est un peu moins évident aujourd'hui parce que, je le répète, on est plutôt dans des anticipations de baisse des taux et l'intérêt pour l'or augmente. Il y a un facteur qui est un facteur plus industriel, plus commercial. Vous avez des zones qui consomment de l'or, je pense notamment à l'Inde, qui consomment de l'or en termes de joaillerie, et c'est une population qui devient de plus en plus riche. Donc il y a une demande aussi pour l'or en termes de d'orfèvrerie qui augmente. Donc là, c'est plus marginal, mais on voit qu'il y a un intérêt. Alors maintenant, vous allez me dire, mais jusqu'où?
Ça, oui, on est actuellement là sur l'or, l'once d'or, on est à 2229 $. On est sur un nouveau plus haut historique. À chaque jour, son plus haut historique sur l'or. Jusqu'où? Voilà, c'est la question que vous l'avez posée, mais c'est la seule question finalement. Jusqu'où?
Alors, je pense qu'on peut aller honnêtement encore jusqu'à 2500, voire éventuellement 2008. Tout dépendra de la baisse des taux d'intérêt. N'oubliez pas aussi, et là c'est assez surprenant d'ailleurs, c'est une fonction inverse du dollar. Là, on a même le dollar qui augmente en même temps que l'or. Donc, quand vous possédez de l'or, vous profitez des deux phénomènes.
Et le potentiel de l'or est d'autant plus important, nous disent certains spécialistes, pas tous, mais certains, qu'on va peut-être dans un monde où l'inflation structurelle sera plus importante qu'avant, mais où les taux seront peut-être malgré tout amenés à baisser, parce que les banquiers centraux vont bien comprendre que leur objectif d'inflation sera sans doute pas atteint. Et donc, on aurait une inflation structurelle plus importante qu'avant la période Covid, mais des taux amenés à baisser. Et ça, c'est le cocktail parfait pour l'or, par exemple.
C'est magique. Là, c'est le cocktail magique. Là, c'est ce qu'on appelle du Goldilocks, c'est-à-dire vraiment. On a l'alignement des planètes pour nous emmener sur l'or, effectivement, sur des niveaux de 2005-2008. Attention, les mines d'or ne suivent pas tout à fait le même parcours pour des raisons plus structurelles, d'investissement, de prix de l'énergie, de la masse salariale. Donc, attention de ne pas privilégier les mines d'or par rapport à l'or physique.
Aude nous appelle, il est 15h46. Aude Kersulek depuis la Tour Euronext, la salle de contrôle du CAC 40. La séance du jour en direct est dans les yeux. Rebonjour, Aude. Comment ça se passe à Paris?
Bon, déjà, on peut saluer le record de ce matin. C'était à 11h09, très précisément 8253 points. On a poussé plus de 20 points plus haut que le plus haut d'hier en séance. Et puis, on est à la fin du trimestre, donc on peut quand même faire on peut quand même regarder les performances de ce trimestre. On a plus 9% sur le CAC 40 depuis le début de l'année. Et on a des performances à deux chiffres sur d'autres indices. C'est le cas du S&P 500 qui va faire son meilleur trimestre depuis 2019. Le DAX 40 aussi, qui enchaîne bien les records depuis quelques temps, il est également en hausse de plus 10% depuis le 1er janvier, plus 9% pour le Nasdaq. Vous parliez de l'or, c'est plus 7% depuis le début de l'année. C'est très différent du Bitcoin qui l'a appris 70% en un trimestre.
Oui, c'est un concours de beauté en ce moment sur les marchés financiers, c'est impressionnant. Les marchés sont sur des records historiques et on a de plus en plus d'auditeurs et téléspectateurs qui nous disent, voilà, je suis intéressé par la bourse, je découvre votre chaîne BFM Business et votre émission BFM Bourse, voilà, parce que la bourse commence à m'intéresser. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard pour investir? Si j'investis maintenant, c'est factuel, j'investirai au plus haut. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, Frédéric?
Je vais toujours sur la lignée de ce que je dis depuis des mois et des mois, c'est-à-dire que je l'avais donné rendez-vous fin mars, plus particulièrement autour du 20 mars. On est un petit peu au-delà sur les niveaux d'indices. On prend le CAC 40, certes, on fait des plus hauts, mais c'est globalement depuis une semaine plutôt, on va dire, plat, légèrement ascendant, mais on est dans une forme transitoire sur le marché. Fin de trimestre, tentation de prise de bénéfices quand même assez forte après ce mouvement. Parce que ce n'est pas le premier trimestre, c'est aussi le dernier trimestre de l'année dernière. Donc le mouvement a été puissant. Au-delà de toute attente, je pense qu'il est sage d'attendre une correction pour revenir. Alors peut-être pas massive, de l'ordre de 5, 6, 7%, mais je pense qu'il est peut-être dangereux aujourd'hui de revenir sur ces niveaux. Il n'y a pas de risque majeur, mais il y a un risque quand même de consolidation.
Après, il faut bien choisir ses valeurs. On peut investir dans les marchés à travers les ETF, bien sûr, puis il y a aussi la gestion active et les valeurs. Trigano a publié ses résultats. Le titre Trigano gagne 10% aujourd'hui, plus 10.
Très bon, hein, très bon. Très bon. On a une croissance qui est très très solide, une croissance à deux chiffres, des niveaux de marge relativement élevés. De toute façon, c'est dans le sillage de ce qu'on a connu post-Covid, hein, sur le loisir. Il y a une demande très très forte. Il faut faire attention à l'effet stockage, notamment sur ce genre de société, parce qu'il y a une volonté de restocker. Maintenant, les stocks, ça nous coûte de l'argent puisque les taux d'intérêt sont élevés. Donc, on peut avoir des effets un petit peu négatifs, mais globalement, les résultats sont très très bons dans le secteur du loisir.
Alors, chaque jour, on vous interroge aussi, vous tous qui nous suivez à la radio et à la télé, sur les réseaux sociaux de BFM Bourse. Vous pouvez y répondre d'ailleurs à nos questions sur notre fil X BFM Bourse, également sur notre fil LinkedIn. Les cloches sonnent, on est à quelques jours de Pâques, effectivement. Alors, c'est la question Pascal, la question Pascal qu'on vous pose sur nos réseaux. La question du jour nous mène aux résurrections boursières, mesdames, messieurs. Voici la question, écoutez bien.
Parmi les valeurs crucifiées ces temps derniers, laquelle ressuscitera? Casino, Atos, Orpea, Euroapi.
Sacrée question. Parmi ces valeurs crucifiées en bourse depuis le début de l'année, laquelle ressuscitera? C'est Simon Tenenbaum qu'on salue la voix. Arctos, Atos, Casino, qui perd aujourd'hui 70% Casino, Orpea, Euroapi. S'il fallait en sortir une comme ça qui pourrait ressusciter, Frédéric?
Alors, Atos, ça va devenir un problème d'État. Et comme l'État n'est pas là pour faire des cadeaux, s'il doit se passer quelque chose, l'État le prendra vraiment au minimum syndical. Alors, c'est vraiment un secteur que j'aime pas en bourse, pour le coup, mais celle sur laquelle on a peut-être un peu plus de certitude, c'est Orpea. On a eu la restructuration du capital, donc on a émis plusieurs milliards d'actions, on a regroupé les titres, le bilan est assaini. On a une visibilité parce que c'est du tarif réglementé, donc on a une évolution qui est quand même plus ou moins connue du chiffre d'affaires. Alors s'il n'y a pas de scandale supplémentaire, et Dieu sait qu'on a eu des scandales sur ce genre de titre, je dirais si on veut se poser, normalement Orpea sur ces niveaux-là est plutôt un actif intéressant à détenir, on ne ferait pas fortune. Hein.
Ça, à quel horizon, à quel horizon comme ça sur Orpea, vous misez sur un rebond à quel terme?
Non, c'est... Si on va prendre une...
Avec l'éternité, on est dans le thème Pascal, là, non, voilà. Résurrection boursière.
C'est pénible en bourse. Et d'ailleurs, il n'a rien à faire en bourse, mais bon, c'est personnel. Mais globalement, vu la visibilité, l'indexation qu'on a, la visibilité qu'on a, les actifs qu'on a, je pense qu'on peut très bien imaginer une progression de 20-25% sur ces titres en horizon un an sans problème. Voilà, mais vous ne ferez pas fortune, ça c'est clair sur Orpea.
Donc Orpea avant tout, il reste Casino, Atos, Euroapi, aucune ne ressuscitera.
Euroapi non, parce que je me dis finalement Sanofi a fait le bon choix de s'en séparer.
Ah oui.
Et Casino, la distribution, oui, bon, il y aura des pressions encore sur les marges. Je suis quand même plus à l'aise à l'avenir sur Orpea.
Cette question du jour, donc sur nos réseaux sociaux, vous pouvez y répondre sur notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi, il suffit de vous y abonner. On vous propose de la réécouter cette question et n'hésitez pas à nous laisser vos arguments en commentaire, bien sûr. On rebondira dessus dans un peu moins d'une heure avec la famille BFM Bourse. Voici la question du jour. Écoutez-la, allez-y, on s'en lasse pas.
Parmi les valeurs crucifiées ces temps derniers, laquelle ressuscitera? Casino, Atos, Orpea, Euroapi.
Il a choisi Orpea, c'est Frédéric Rosier. Vous avez peut-être un avis différent. N'hésitez pas à challenger Frédéric aussi sur nos réseaux en commentaire et on rebondira dessus tout à l'heure. Merci Frédéric d'être passé nous voir. La question du jour, effectivement, chaque après-midi sur nos réseaux sociaux. Le CAC 40 est en hausse en ce moment d'un peu plus de 0,1%. C'est dur pour les actionnaires de ces sociétés. Ça a été un début d'année très très compliqué.
Chemin de croix.
Ah oui, c'est le cas de le dire, vraiment. Casino qui recule aujourd'hui de plus de 70% et depuis le début de l'année de 95% Casino. Atos, moins 73% depuis le 1er janvier. Euroapi, moins 53% depuis le 1er janvier. Orpea, moins 37%. Dur, dur. Bon, sur le CAC, heureusement, ça va un peu mieux. Et à Wall Street aussi, aujourd'hui, on est à peu près stable sur les indices américains. Salut Frédéric et à très bientôt. Ciao.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Oui, chaque jour, effectivement, on vous apporte aussi des clés d'investissement à travers la pédagogie boursière. Culture Bourse, votre dose de culture quotidienne au cœur de BFM Bourse. Julie Cohen-Horton et son expert vous répondent. Bonjour Julie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire. On vous remercie pour avoir un éclairage sur vos portefeuilles d'investissement, sur les arbitrages à effectuer. Et nous, ça tombe très bien parce qu'on a des experts pour vous éclairer. Et vous savez désormais, il y a deux options. Vous nous écrivez à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien au QR code qui s'affiche sur votre écran si vous nous regardez à la télévision.
Et Julie, une question qui va concerner et intéresser beaucoup de monde, question liée au record, nouveau record tout à l'heure d'ailleurs du CAC 40.
Et c'est Nicolas qui nous a écrit. Nicolas qui vient d'avoir un petit Victor, hein, que l'on salue, qui est probablement un futur investisseur qui suivra BFM Bourse.
Bienvenue Victor.
Exactement. Et Nicolas, il rappelle bien que les niveaux sur le CAC, sur les indices, sont historiques. Hier encore, on a franchi un record et du coup, il veut savoir si c'est le bon moment d'investir en bourse. Marisol Michel pour Swiss Life Banque Privée est avec nous. Bonjour Marisol.
Bonjour Julie, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors Marisol, avec ces indices au plus haut, est-ce que vaut mieux pas finalement jouer la carte de la prudence pour éviter par exemple la dégringolade de certains titres?
Alors c'est vrai que la hausse depuis le début de l'année est forte, hein. Elle peut faire un peu réfléchir, donc on a parlé il y a quelques minutes, le CAC 40 a franchi un record en séance aujourd'hui, encore un nouveau record à 8250, il s'est un petit peu effrité depuis, mais on est quand même sur des points hauts, en hausse de 9% depuis le début de l'année et d'une quinzaine de pourcents depuis 6 mois. Donc une hausse rapide. Donc à court terme, nous, on pense qu'il a besoin de souffler, le CAC 40. Il devrait y avoir une petite correction, puisqu'on fait jamais des hausses en ligne droite. Hein. Mais pour nous, la correction devrait rester limitée, de l'ordre de moins 4 à moins 7%. Pourquoi une correction limitée? Parce que les fondamentaux dont bénéficie la bourse sont plutôt favorables en ce moment. Alors, je vais les lister pour vous. Pour nous, il y a trois points favorables. D'abord, la croissance macroéconomique est plus importante que ce qu'on attendait il y a quelques temps. On a aussi de bons chiffres sur le front de l'inflation qui reflue assez rapidement. Et donc, ça va permettre aux banques centrales de baisser leurs taux. Les entreprises vont bien. Elles ont fait de bonnes publications T4 et souvent des publications au-dessus des attentes. Et puis, il y a la thématique de l'intelligence artificielle qui est très présente et qui suscite de belles progressions des cours de bourse des valeurs technologiques. Et enfin, dernier élément, la valorisation de nos marchés qui reste correcte, tout à fait correcte, puisqu'on est à peu près à 13 fois les bénéfices. Donc, on n'est pas du tout dans un phénomène de bulle. Donc, pour répondre à Nicolas, j'investirai une partie de ces fonds. Je commencerai à faire des actions dans une perspective à 12 mois, mais je garderai du cash pour renforcer s'il y a une correction.
Marisol, vous restez avec nous. On a d'autres questions à vous poser dans un instant, justement, sur les valeurs qui se distinguent, celles qui offrent le meilleur potentiel aux investisseurs. On vous rappelle dans 2-3 minutes. Vous restez en ligne avec nous et on vous redonnera la parole. Ça vous dit, Marisol?
Oui, ça me dit. Ah, à
super.
Tout à l'heure.
Rendez-vous dans un instant, effectivement. Alors, Culture Bourse, c'est nos réponses aux questions que vous nous envoyez, mais c'est aussi de la pédagogie financière et de l'analyse technique. Chaque jeudi, on vous propose un zoom sur notre portefeuille trading BFM Bourse. Julie.
Et notre analyste, eh bien, c'est Alexandre Tixier. Il analyse un portefeuille trading. Bonjour Alexandre.
Bonjour Julie, bonjour Guillaume.
Alors, salut. On le rappelle, hein, pour vous abonner, il vous suffit de scanner, de flasher le QR code qui apparaît sur vos écrans. Bon, alors Alexandre, on n'en finit pas des records. Encore hier sur le CAC, quel regard vous portez sur ces seuils qui se maintiennent et comment vous le traduisez techniquement au sein du portefeuille?
Alors oui, ce cas qui conserve une configuration graphique engageante, enfin engageante, il faut préciser, parce que là il est vraiment en lévitation, j'ai envie de dire, sur ses records absolus. Pas de signe de fragilité majeure. À court terme, certaines petites fêlures, hein, on peut imaginer à tout instant une prise de respiration en direction, je dirais, des 7800, à peu près 7800 points, ça correspondrait à la borne basse d'un vaste canal haussier, et puis on pourrait se remobiliser sur ces niveaux.
Alors pour ceux que ce portefeuille trading intéresse, suffit de s'abonner, hein, c'est pas très compliqué, pour recevoir toutes les alertes d'Alexandre sur le potentiel technique, non seulement du CAC, mais différents titres, et pour vous abonner, vous flashez, vous scannez ce très beau QR code en plus. C'est une œuvre d'art qu'on vous a concoctée, n'hésitez pas à le flasher ou à le scanner. Vous l'aurez sur votre téléphone et vous pourrez en profiter durablement. Bon, une valeur justement pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, Alexandre. Une valeur dont vous vous dites, celle-ci, elle envoie des signaux forts quand même et il faut que j'en parle à mes abonnés. S'il y en avait une comme ça que vous pourriez mettre en avant pour ceux qui n'auraient pas encore choisi de s'abonner à votre portefeuille, ce serait laquelle?
Alors, effectivement, il y en a une sur laquelle on fait des allers-retours assez fréquents, c'est Bouygues. Sur Bouygues, moi, je voudrais revenir sur la séance du 27 février, qui est une séance clé. Et nous, en analyse technique, on aime bien ce genre de momentum sur une séance, parce que ça a tout simplement du sens pour les séances à venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, un gros gap haussier, une extension haussière consécutive sur bougie au corps allongé, sans aucune mèche, et très gros volume sur annonce majeure, c'était la copie trimestrielle tout simplement, et un franchissement de moyenne mobile remarquable. Donc je résume, une séance du 27 février sur Bouygues qui a encore une résonance haussière aujourd'hui.
Une bougie au corps allongé, sans aucune mèche, c'est joli.
Voilà.
Merci Alexandre, c'est de la poésie.